auditeurs, chères auditrices de Radio Bartas, bienvenue sur le 107 et aujourd'hui c'est une interview assez particulière puisqu'il s'agit d'interviewer Christophe qui travaille à la radio en tant que technicien depuis quelques temps. Bonjour Christophe. Nous avons aussi Germain à la technique. Salut Germain. Alors aujourd'hui cette interview portera, comme vous l'avez compris, sur Christophe mais sur son vécu, sur son travail à la radio, enfin sur la vie en général. Donc Christophe, avant d'avoir ton âge, t'as été jeune.
Ah ouais. Oui.
C'était quoi tes rêves?
Mes rêves?
Tes rêves?
Bah c'est pas moi. À 18 ans, 19 ans, quand je suis parti de l'école, mon père m'a dit, bah écoute, il faut que tu apprennes la vie. Mon père, c'est un ancien 68ard, quoi. Donc tu vois, il est super libre et tout. Et il m'a dit, j'étais chez lui, quoi. Et il m'a dit, je te donne un an pour que tu t'adonnes à ta passion. Alors à l'époque, je faisais énormément de spéléo. Et puis je commençais à m'intéresser, à pratiquer énormément la musique, quoi. Voilà. Donc moi, mon rêve, c'était de devenir spéléologue.
Musicien.
Et je me disais qu'un jour j'allais terminer ermite en haut d'une montagne.
Du coup, pendant cette année, tu as fait de la spéléologie de la musique?
Ouais, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Et en plus, on a eu la chance d'avoir un super hiver où il faisait hyper beau. Et j'étais avec un pote, José. On était autour d'Ispagnac, tout le temps fourré dans les montagnes, en train d'explorer toutes les petites cavités qu'on repérait. Et puis, essayer d'aller voir si ça allait pas plus loin.
Par rapport à la musique, à ma connaissance, à force de parler entre les post-pop et le travail, tu as eu une carrière assez mouvementée.
Ouais, carrière, c'est un grand mot. Ouais, j'ai commencé avec un groupe qui s'appelle L'Écho des Cévennes. Voilà, on ne savait pas jouer, on ne savait pas répéter. Les morceaux duraient une demi-heure. Voilà. Donc après, je suis rentré dans un bal rock and roll avec Señor Ziggy, le sonorisateur du coin quand même, qui était un guitariste héros, comme on peut l'entendre. C'est-à-dire, si tu connais des gens comme Joe Satriani, Steve Vai, Jimi Hendrix,
Van Halen.
Voilà, Van Halen, et ben, tu vois, il avait des morceaux de Van Halen qui se reprenaient à la virgule près. J'ai jamais eu la sensation, depuis, avec un guitariste, de jouer avec quelqu'un comme ça. C'est comme si tu étais porté par une machine qui te tirait à l'avant, tu vois. Et même toi, si tu essaies de freiner, tu peux pas. Lui, il est tellement dans son truc qu'il... Tu sens une sensation de puissance et c'est incroyable. Et lui, il m'a appris à répéter, à nous structurer et tout le travail. Quoi.
Qu'est-ce que tu faisais dans ces groupes?
Alors, je chantais et je jouais de l'harmonica. Parce que j'ai attaqué la guitare à 7 ans, mais j'avais un prof qui buvait un peu d'alcool. Et quand j'avais pas pris mes leçons, il m'envoyait une torgnole. Donc, on a vite arrêté. Après, j'ai fait de la batterie pendant 2 ans quand j'étais ado à Mende. J'ai arrêté aussi. Et puis après, je me suis mis à l'harmonica. Et de l'harmonica, je suis passé à la basse. Et de la basse, je suis passé à la guitare.
Tu fais tout un panel d'instruments, c'est plutôt bien. Tu peux divaguer entre plusieurs groupes et...
Ouais. Souvent, je suis après batteur, je ne suis pas assez bon batteur parce que j'en ai fait que 2 ans. Quoi. Je connais quelques rudiments, mais après, je peux... Ouais, dans des groupes, j'ai été bassiste. Dans des groupes, j'ai été guitariste. Mais je suis plus guitariste que bassiste quand même.
T'as une anecdote d'un concert?
Une anecdote d'un concert, oui. Alors j'avais un groupe lorsque j'étais jeune, avant de devenir vieux comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci. Je jouais avec un groupe qui s'appelait les Ragnagna. Et donc on faisait les estudiantines européennes à Nîmes, avec des groupes d'Angleterre, de Roumanie, de Tchéquie. Enfin, à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Ça, t'as pas connu le rideau de fer et t'étais pas né, hein, gamin. Et du coup, on se met à pogoter avec mon pote bassiste, qui jouait avec nous. Et sauf que lui, il était taillé 2 fois comme moi. Et donc, on se donne un ou 2 coups d'épaule tout en jouant quand même. Et puis, à un moment, il se prend au jeu et puis il me donne un gros coup d'épaule. Et je suis tombé de scène, quoi. J'ai pas le dingue. Je suis tombé de scène. Par miracle, je suis tombé. J'ai pas arrêté de jouer et je suis remonté sur scène. Et alors là, c'était le délire, quoi. Il y a tout le monde qui a super apprécié. Et j'ai eu le droit à ma photo en première page du Midi Libre, des estudiantines européennes. Peut-être grâce à cet exploit. Ça me restera toujours marqué dans la tête.
Quel style tu pratiquais? T'as différents styles, un seul
Ouais, punk.
Punk?
Ouais, nous on était punk, mais après les punks tu le déclines en plusieurs trucs, quoi. T'as du punk plutôt orienté rock'n'roll, t'as du punk orienté trash, t'as du punk orienté hardcore, même metal aujourd'hui, quoi. Donc nous on était un peu rock'n'roll, et puis après moi le hardcore m'a beaucoup intéressé, quoi. Donc voilà, punk... Les Ragnagna, c'était punk un peu rock'n'roll, avec du ska et tout. Mais ouais, rapidement, j'ai essayé de me tourner un petit peu vers des sons un peu plus qui grognent un peu plus, des ambiances un peu plus sombres, avec des paroles peut-être moins joyeuses, parce que quand t'as 20 ans, t'es rempli d'illusions, donc on avait des chansons peut-être naïves, mais en tout cas qui étaient porteuses d'espoir. Ben, au fur et à mesure, tu grandis, puis je sais pas.
Est-ce que l'espoir s'estompe?
Ouais, moi je pense. Ouais, parce que bah, t'as des expériences professionnelles, et d'une, puis t'as des longues expériences de chômage. Et là, quand t'es au chômage, tu te remets fortement en question. Donc moi, je suis issu d'une génération où mes parents, ils ont connu le plein emploi. Et nous, quand on s'est retrouvés début 90 à plus avoir de boulot, et ben, tous les gens de la génération de mes parents me disaient « Mais t'as pas de travail, c'est parce que tu t'as pas envie de travailler, quoi. » Alors que nous, on était vraiment une des premières générations à vraiment galérer pour trouver du travail. Et aujourd'hui, maintenant, on dit « Ah ouais, bah, tu galères pour trouver du travail, c'est normal. » Alors que nous, avant, dans les années 90, ben, tu travailles pas, c'est parce que tu le veux bien, pas travailler. Donc ça met un petit peu les glandes.
Toi, t'es originaire d'ici
Non, je suis de la Guerche de Bretagne, à 40 km en dessous de Rennes. En te dirigeant sur la Mayenne, c'est un village typique breton, qui a encore tous les attraits d'un village touristique avec ses maisons typiques de Bretagne. Mais vu que j'étais tout le temps malade en Bretagne à cause de l'air humide, soit que je partais en sanatorium, soit que le toubib m'a dit il te faut l'air de la moyenne montagne. Et mon père était un passionné d'oiseaux, donc il était instit, ma mère était prof. Et donc ils ont dit on va prendre la moyenne montagne, et vu que le parc national des Cévennes qui s'était créé en 68 ou 69, je ne sais plus exactement, venait de s'ouvrir, en 74, mes parents ils ont dit allez, on va aller dans les Cévennes. Et ils ont été mutés au Pompidou, et j'ai passé toute ma petite enfance au Pompidou.
T'avais quel âge quand t'es arrivé?
Ouais, j'avais 4 ans.
Parce que c'est une région que tu connais bien. C'est quoi les changements maintenant que t'as ton âge? T'as quoi? T'as 50 ans?
Ouais, je vais avoir 50 ans. Ouais.
C'est quoi d'avoir 50 ans en 2018 dans les Cévennes?
Ah, c'est cool. Tu sais, je suis vachement parti. Je suis souvent allé. J'avais habité dans quelques villes, du côté de Montpellier. Je suis même parti à Québec. Mais à chaque fois, je suis revenu. J'ai toujours eu un élastique dans le dos, quoi.
C'est comment le Québec?
C'est froid, mais les gens sont chaleureux. Comme tous les gens des pays froids, ils sont hyper chaleureux. Puis en plus, on a une culture un peu identique, quoi. Bon, eux, ils sont pas mal américanisés, mais on partage la langue française, quoi. Et nous, on est les maudits français. Parce qu'il faut savoir que eux, s'ils ont perdu leur indépendance et leur langue française, pas dans tout le Québec, hein, mais du côté de Montréal, c'est parce qu'à un moment, Napoléon qui les a abandonnés quand les Anglais venaient. Ils voulaient envahir le territoire, quoi. Il y a eu une bataille sur la plaine d'Abraham au-dessus de Québec. Et les contingents de l'armée française ne sont pas venus. Ils ont abandonné les Québécois aux Anglais. Voilà, c'est pour ça qu'on est les maudits Français, mais ils nous adorent quand même.
Depuis combien de temps tu travailles à Radio Barthes?
Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. J'ai fait quelques années en intérim à Quézac. Puis après, je voulais me lancer. Moi, j'ai fait une formation au CFPPA de transformation de produits fermiers. Puis je voulais me lancer dans les fruits rouges, tu vois, des trucs comme ça. Faire des confitures, des sirops. Bon, premièrement, j'ai pas trouvé le terrain, parce qu'ici, il faut savoir que si tu veux trouver des terrains à t'installer en tant qu'agriculteur, c'est hyper verrouillé, quoi. Un organisme qui s'appelle la SAFER, et c'est super dur à avoir des plans, à part si t'es fils d'agriculteur. Enfin, pour les nouveaux agriculteurs, c'est très 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 difficile, et le foncier, tu peux pas l'avoir comme ça. Donc j'arrivais pas trop à monter mon projet, puis il y a Radio Barthes qui a passé une annonce comme quoi il cherchait quelqu'un. Et je me suis retrouvé à Radio Barthes. Alors en même temps, il y avait le technicien qui s'en allait, l'animatrice Cécile qui s'en allait. Donc Cécile m'a formé une semaine pour me dire en quoi consistait son travail. Aurélien, oui, il m'a formé 2 ou 3 jours, je crois. Et je me suis retrouvé tout seul pendant 3 mois avant que l'animateur n'arrive.
C'était comment le début, du coup?
Ah bah du coup, le début, c'était difficile. Hein. Quand t'es obligé de faire la technique, t'es obligé de tenir tes matinales et les émissions. Moi, j'avais pratiquement jamais fait d'émission de radio, tu vois, ou à part quand j'étais ado, ou si j'avais fourni un petit peu à Radio Barthes, mais c'était sur des thèmes qui me correspondaient, c'était sur des groupes locaux que j'enregistrais dans mon studio d'enregistrement chez moi, là. Et là, je me suis retrouvé tout seul à devoir traiter, je sais pas moi, les foyers ruraux de Florac. Moi, au début, je savais pas trop quoi raconter, je savais pas trop qui inviter, j'étais vraiment... Mais bon, voilà, après, d'être jeté dans le bain comme ça, et puis il faut que t'assures, quoi. Et ben, tu fais une émission, deux émissions qui sont un peu ratées, mais après, tu te rectifies super vite et t'essaies de faire un truc de bien, quoi. Donc voilà, ça a été mes débuts à Radio Partas, les trois premiers mois assez intenses et rock'n'roll, quoi.
Et après 3 ans, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Est-ce que t'as évolué par rapport à ça?
Ben, tu sais, moi, j'ai fait 6 ans d'affilée d'intérim à Quézac. Donc, l'intérim, c'est... t'as les 3-8. Tu vas commencer à 5h du matin, arrêter à 13h. La semaine d'après, tu reprends à 13h, tu finis à 21h. La semaine d'après, tu commences à 21h et tu finis à 5h du matin. Tu passes tes week-ends à récupérer pour t'adapter à l'autre, aux autres horaires qui te seront imposés la semaine d'après, quoi. Eh ben, tu vois plus personne. Eh ben, moi, Radio Partas, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a resociabilisé, quoi. Parce que je fréquentais pratiquement plus grand monde, quoi. Et pour le coup, là, tu vas faire des reportages. Toi, tu sais, tu fais des reportages, hein. Tu vois, on croise plein de monde à Radio Partas, il y a plein de monde qui passe. Donc, du coup, tu as un panel entre les agriculteurs, les artistes, tu vois, tu vois plein de gens et du coup ça m'a hyper connecté avec le coin et ça j'adore, même si je touche deux fois moins qu'à Quézac, j'ai une qualité de vie qui est deux fois meilleure.
C'est une radio associative, tu te donnes beaucoup pour la faire vivre, est-ce que c'est quelque chose qui risque de disparaître ici à Florac, Radio Partas justement?
Ouais, je pense, ouais, si on fait pas attention, là tu vois, pour équilibrer le budget, il va nous manquer quelques milliers d'euros parce qu'on a eu l'abandon des contrats aidés. Et l'abandon des contrats aidés, dans un budget, ça pèse, quoi. Parce que quand tu donnes le SMIC à quelqu'un, il faut savoir que si tu payes les cotisations en plus, ça va te... Tu vas payer le double, quoi. Donc tu comptes à peu près 2200 euros que tu multiplies par 12. Tu vois combien ça fait? Ça fait à peu près 25 000 euros. Donc quand on t'enlève ça dans une petite structure associative comme nous, c'est comme n'importe quelle autre structure associative, ça te fait un sacré trou dans le budget. Et nous, on a un organisme de financement qui s'appelle le Fonds de soutien radiophonique. On est quand même amené à mener de l'argent. Et si on passe en dessous d'un certain seuil, par exemple, je sais pas, moi, je vais te raconter, si on passe en dessous de 55 000 euros, je dis un truc comme ça, c'est Véro qui t'en parlerait le plus, quoi. Mais si on passe en dessous de ce seuil, eh ben on va toucher moins de fonds de soutien radiophonique. Qui veut dire que si on touche moins de fonds de soutien radiophonique, c'est-à-dire 70 000 euros, si on touche plus que 60 000 euros, eh ben ça va se traduire par soit que moi, au lieu d'être à plein temps, je vais passer à 80%. L'animateur, au lieu d'être à 80%, il va passer à 50%. Donc du coup, nous, on va rapporter moins de choses à la radio. On aura beaucoup moins d'activités à la radio. Du coup, pour le FSER, on va de nouveau moins remplir de missions. Du coup, de nouveau, on va repasser en dessous d'une barre où on aura encore cette fois-ci 10 000 euros en moins. Donc, on va devoir compresser. C'est moi qui vais passer à mi-temps. Ben, l'animateur, qui sera plus qu'à 30%. Et tu vois, et après, c'est une logique.
Sur la mesure, ouais.
C'est une logique de réduction jusqu'au moment où tu ne peux plus payer un seul salarié. Ça doit tourner avec des bénévoles. Alors, en soi, il n'y a pas de souci que ça tourne avec des bénévoles. Mais si t'as pas les bénévoles qui sont formés, et si t'as pas une réelle
régularité.
Une réelle envie des bénévoles et une régularité, ta radio, elle va finir par mourir parce qu'on paye un loyer, on paye de l'électricité. Donc on est quand même amené à avoir des rentrées d'argent, quoi. Voilà, c'est tout. Donc elle peut disparaître, ouais.
Et après l'économique plombant, on va passer un peu à du social. Est-ce que t'as rencontré des gens qui te sont restés dans la tête par rapport justement à une interview, à un sujet que tu as travaillé?
C'est une ancienne animatrice qui était ici, qui faisait une émission en occitan, qu'on appelait Dédé. Cette émission s'est arrêtée parce que tout simplement elle est morte d'un cancer, quoi. Et c'était une dame que je connaissais quand j'étais gamin, parce qu'elle était institutrice et elle fréquentait mes parents, quoi. J'ai 20 ans, je suis ado, j'ai 20 ans, jusqu'à ce que je rentre à la radio, je l'avais pas trop recroisée, quoi. Et puis c'est quelqu'un qui fait très, BCBG, comme quelqu'un de normal, quoi. T'as l'impression de voir une vieille personne. Ouais, tu te dis, elle est pas intéressante et tout. Elle a pas le look, elle a pas des boucles d'oreilles, elle est pas percée au nez, elle a pas des locks aux cheveux, elle a pas, elle est fringuée normalement. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle était impliquée dans les associations? Et puis attention, des associations pour aider les gens, tu vois, pour maintenir le sport chez les enfants le mercredi, en milieu scolaire, tu vois. Donc elle était hyper investie socialement, quoi. Mais elle n'avait pas le look de rebelle. Et il y a des fois, je vois des rebelles qui ont le super look de rebelle qui dit, eux, ils doivent y aller à fond la caisse.
En fait.
Puis finalement, ils passent toute leur journée au bistrot et puis ils participent à aucune lutte. Alors qu'une dame comme ça qui payait pas de mine, ben finalement, elle en faisait beaucoup plus que tous les rebelles que j'ai croisés durant ma vie. Et ça, socialement, ouais, ça a été une super rencontre. Et puis elle était gentille comme tout, quoi.
Maintenant, t'es papa depuis quelques temps.
Ouais.
Alors, est-ce que ça fait de toi un homme meilleur?
Ah bah ouais, d'être papa, ça fait toujours ressortir le meilleur de l'humain, je pense. Bah, t'as un petit bout de chou. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai une fille, quoi. Et bah, tu déconnes pas, quoi. Tu sais que si tu fais une connerie, ben, ton enfant, ça va lui rester peut-être tout au long de sa vie. Il va peut-être développer des blocages. Voilà, si tu lui donnes pas assez confiance. Voilà, si à chaque fois, je voyais qu'elle me montrait des dessins, je lui fais, oh, Sylène, tu peux quand même mieux faire. Bah, peut-être qu'au bout d'un moment, elle se dirait, ah ben tiens, bah, finalement, je ne sais pas faire, et puis finalement, je ne sais rien faire. Puis finalement, elle va avoir une... elle va se désestimer, quoi. Alors que là, je lui dis plutôt, ah ouais, mais putain, c'est super bien ce que tu fais et tout. Donc voilà, je lui donne confiance et voilà, ouais, je suis papa et je prends mon rôle très très au sérieux au niveau de l'éducation sans être rigide. Hein. Tu sais, moi, je suis de la génération de 68, hein, donc nous, c'est beaucoup le dialogue avec les parents. Puis il y a quand même une idée de liberté, quoi. Moi, je sais pas, ma fille, je lui mets des grandes tapisseries que je retourne du côté blanc sur les murs. Et puis je lui dis, vas-y, prends tes pinceaux, prends tes crayons, vas-y, dessine, éclate-toi.
Ouais. C'est quoi ton témoignage sur le long terme de comment le pays a changé, comment les mentalités ont changé, qu'est-ce que je pourrais critiquer?
Ouais,
un axe d'amélioration peut-être?
Bah, y a déjà eu beaucoup d'améliorations. Hein. Tu sais que nous, au début 90, quand on a créé notre association, on devait être peut-être 5 associations à organiser des concerts. On était 5 groupes en Lozère. Ouais, aujourd'hui, tu as plein d'associations, ça organise beaucoup, beaucoup, quoi. Des groupes, t'en as beaucoup, quoi. Donc là-dessus, ça s'est vraiment développé, et là-dessus, c'est bien, parce qu'avant... Mais le truc, c'est qu'avant, on arrivait à jouer dans beaucoup plus d'endroits. Voilà, parce qu'il s'est développé un truc pendant les années 90 et les années 2000, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans les centres-villages et les centres-villes qui ont fermé à cause de plaintes de voisins, quoi. Alors qu'avant, mais je t'assure, on était vraiment invités partout. Et puis, je crois que les gens étaient tolérants, quoi. Tu vois, il n'y avait pas la crise économique comme aujourd'hui, où les gens sont un peu renfrognés, un peu noirs et tout, quoi. Et bon, je trouve qu'il y avait quand même plus de tolérance. Voilà, alors c'est peut-être des anciens qui sont partis, tu vois, qui sont morts aujourd'hui, quoi. Mais ils étaient vachement plus tolérants que les gens d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il y a une espèce de clivage, tu vois, on le voit par rapport aux gilets jaunes, quoi. Comment te dire, t'as des gens qui ont perdu de la culture. Ils ont peut-être, jamais ouvert un bouquin, quoi, mais très peu ouvert un bouquin. Et puis, dès qu'ils rentrent du boulot, ils sont devant leur téloche à manger des émissions où tu réfléchis pas trop. Où ils sont vraiment devant une télévision à pas réfléchir, moi j'appelle ça à s'abrutir. Et du coup, après, les schémas de pensée deviennent vachement plus simplistes. Quand ça va mal, tu t'en prends plus vite à ton voisin qu'à d'essayer de comprendre les mécanismes d'une société et comment ça marche pour te dire, bah non, finalement, c'est peut-être pas mon voisin, parce que mon voisin, il est peut-être lui aussi dans la galère. Tu vois, je te prends les gens qui sont en pavillon, c'est des gens qui vont peut-être toucher le SMIC ou peut-être 1 500 euros, quoi. Mais ils sont tellement entre gens qui vivent en pavillon, qui discutent entre eux, et puis ouais, on discute de gens qui mènent une vie en pavillon. Mais après, de temps en temps, bah ouais, il y a des petits banlieusards, tu vois, des Renois, des Rebeux, enfin des gens voilà, qui sont issus de la population d'immigrés. Moi aussi, hein, je suis issu de population immigrée, hein, je suis polonais d'origine. Donc ils vont dire, ah ouais, mais c'est eux qui mettent le bordel. Alors que non, eux, ils subissent, comme les mecs des pavillons, ils subissent le même truc, des salaires de merde, tu vois, des conditions salariales où on leur demande toujours d'en faire plus. Et en plus, les gamins de banlieue, ils ont en plus la stigmatisation, en plus. C'est-à-dire que parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont, tu vois, parce qu'ils sont café crème, eh ben, on va leur dire, ouais, c'est parce que vous, vous êtes comme ça, parce que dans vos pays, ça se passe comme ça, que vous êtes comme ça et que vous nous emmerdez. C'est carrément de la connerie. Ouvre un bouquin, renseigne-toi sur ce qu'est la politique, sur ce qu'est les rouages d'une société, et tu vas peut-être comprendre que tu subis comme le mec des banlieues, et qu'au lieu de te tirer dans les pattes avec le mec de banlieue, bah, tu te ferais mieux de te prendre par la main pour essayer d'aller voir les véritables personnes qui font que ton quotidien devient de plus en plus dur tous les jours.
T'as des origines polonaises ?
Ouais.
C'est passé comment le déplacement Pologne-Bretagne ?
Bon, ça, c'est mes grands-parents qui l'ont fait.
Oui, voilà. je suppose.
Ouais, bah écoute, en Pologne, ils crevaient la dalle, quoi. C'était des paysans qui n'avaient pas trop d'argent, quoi. À part du côté de mon grand-père, où c'était une famille de musiciens classiques. Mon grand-père a fait le tour de l'Europe avec son frère qui était à la trompette, mon grand-père qui était au violon et au piano. Mais il s'est marié avec ma grand-mère qui était d'origine paysanne. Et puis, eux, ils n'avaient pas trop d'argent. Et puis la Pologne a été envahie. Tu vois, c'était quand même pas mal la galère pour eux. Et du coup, à l'époque, en France, on avait besoin de mineurs. Donc ils sont arrivés dans le nord de la France à Noyelles-sous-Lens. Et ma grand-mère est arrivée avec mon arrière-grand-père, qui lui travaillait dans les mines. Et mon grand-père, lui, était instituteur pour les petits Polonais. Voilà, dans les corons.
Tout à l'heure, on parlait des groupes de musique. Est-ce que ça t'a appris quelque chose ? J'ai parlé avec un musicien la dernière fois, il m'a dit ça m'a appris le vivre ensemble. Est-ce que ça a appris quelque chose justement par rapport à ta façon de vivre ?
Ouais. Bah, c'est qu'à un moment, je rêvais de devenir professionnel. Je suis devenu professionnel en tant que technicien, jamais en tant que musicien. Pour moi, c'était à chaque fois que j'allais jouer, soit à Dijon, à Paris, enfin tu vois, vraiment à droite, à gauche. Pour moi, j'allais rencontrer des gens nouveaux et je me disais, chaque fois que j'ai un concert, je suis en train de me payer un petit bout de vacances. Tu vois, je me fais plaisir en montant sur scène, et de deux, je vais sortir de Malozère et puis aller voir d'autres gens et tout. Parce que moi, il y a un truc qui m'a marqué à vie, c'est quand je jouais avec la Ragnagna, on a fait une tournée d'un mois à Québec. Et donc après, j'ai rencontré une blonde, comme ils disent là-bas, j'ai rencontré une nana, et puis je suis retourné l'hiver d'après. Et pour moi, ça a été une révélation dans ma vie d'aller là-bas, quoi. J'y suis allé tout seul avec mon baluchon chez ma copine, ça s'est mal passé dès le premier mois. Du coup, je me suis retrouvé chez un membre du groupe avec qui on avait fait un échange, tu vois, on les avait fait venir jouer en France, nous on était partis jouer là-bas. Et puis après, j'étais tout seul dans Québec et j'ai dû me bouger pour aller à la rencontre des gens et tout. Et ça m'a soigné d'une timidité maladive que j'avais, quoi, tu vois. J'étais jamais sorti de Lozère, mais j'avais très peur de la ville, tu vois. Et je croyais que j'étais le dernier des culs terreux du fin fond de la France. Et ça m'a permis de me donner un coup de pied au cul, puis d'aller quand même à la rencontre des gens, puis de m'apercevoir que les gens des villes étaient aussi curieux que moi qu'on se connaisse, quoi, tu vois. Et du coup, ça m'a enlevé cette peur et ça m'a ouvert. J'ai pris confiance en moi et ça m'a ouvert en me disant, tiens, Christophe, si tu te bottes le cul dans la vie, ça va bien se passer.
T'as bientôt un demi-siècle.
Ouais,
est-ce que t'as...
Merci de me le rappeler.
Est-ce que t'as un conseil à donner aux jeunes, par exemple, comme tu disais, qui sont porteurs d'espoir ?
Bah, c'est-à-dire que ça va vite vous arriver, hein, vous allez voir. Hein, ça arrivera à ma fille. Hein. C'est que là, on a un réchauffement climatique qui va porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Tu vois, il y a déjà des îles qui, avec la montée des eaux, qui disparaissent, qui commencent à disparaître. T'as des zones proches du Sahara, les zones proches des déserts qui vont encore devenir de plus en plus désertiques parce que la température va monter. Et inexorablement, tu vas avoir des migrations de population. Donc nous, on va se retrouver confrontés à avoir un afflux de population et on va pas pouvoir construire des murs éternellement, quoi. Il va falloir qu'on accueille ces populations, quoi.
On apprenne à vivre ensemble.
Ouais. Donc moi, un conseil pour les jeunes, c'est qu'on peut encore limiter un peu la casse. on peut faire que la température ne va pas monter de 5 à 7 degrés. Elle est en train de monter, elle va atteindre 2 degrés de plus par rapport aux moyennes qu'il y avait les siècles précédents, quoi. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est déjà, et d'une, retournez voter. Voilà, parce que d'aller voter, c'est d'élire des gens qui sont dans l'action après. Et voter intelligemment, c'est-à-dire que ne votez pas pour des gens qui vont vous promettre votre jeu vidéo, d'avoir une plus belle bagnole, de bouffer du plastique, à qui mieux, parce que de toute façon, le plastique te reviendra dans les aliments. Il faut savoir que là-dedans, tu as des perturbateurs endocriniens, et que depuis 1945, quand même, la fertilité des hommes a baissé de 50%. Et on soupçonne vraiment tout ce qui est plastique, parce que ça s'est vachement développé. Donc moi, un conseil que j'ai à dire aux jeunes, c'est les gars, il y a le discours, il y a tout ça, on parle, mais demain, tu te passes du plastique. Tu élis des politiques qui mettent en place des navettes, et ici on peut le faire, hein. On est 10 personnes à bosser sur Florac alors que j'habite à Bar-des-Cévennes. Bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas une petite navette qui fasse, tu vois ? Là, on est obligé de prendre 10 voitures. Chacun a sa bagnole. C'est complètement stupide. Donc, c'est de vous battre pour ça, qu'on réduise. Il faut absolument qu'on réduise notre consommation. On ne va pas pouvoir continuer, la planète ne va pas pouvoir continuer avec quand on a des nouveaux iPhones, quand on se prend des aliments entourés de plastique constamment. Tout ça, forcément, ça nous revient, ça revient sur nous et il va falloir arrêter ces pratiques. Il va falloir se botter le cul, se dire non, je ne rentre plus dans une grande surface, c'est fini. Je vais aller dans une petite épicerie où je vais pouvoir acheter ma farine en vrac.
Des circuits courts.
Ouais, des circuits courts, tu vois, que ce soit moins gourmand en essence et tout ça. Si jamais les jeunes, les générations suivantes, et d'une qu'ils abandonnent, qu'ils mangent moins de viande, ça aussi c'est pas mal, hein, parce que depuis 1945, on bouffe de la viande tous les jours, alors qu'avant c'était deux fois par semaine. Il faut savoir que quand tu mets des concentrations d'animaux aux États-Unis, il y a des fermes immenses de bœufs, ne serait-ce que la production, de donner à manger à la production de bœuf dans le monde entier, tu vois, ce qu'on leur donne en maïs, si on le donnait aux êtres humains, ça suffirait à éliminer toutes les famines qu'il y a dans le monde. Et la concentration de bœufs, ça fait que les bœufs, ben, ils pissent, ils chient. Donc tout ça, on va les stocker quelque part. Ça crée de la pollution. Donc il y a des gens aux États-Unis qui vont faire des footings et puis selon les heures, quand il y a trop de soleil, il y a trop d'émanations de méthane, de chlore, parce que la piste, de l'ammoniac, excuse-moi, parce que la piste, ça contient de l'ammoniac. Et les gens, ils tombent dans les pommes, réellement, tu vois, ils tombent dans les pommes. Et ils sont à côté d'une espèce de ferme qui s'appelle, comme en France on essaie de nous faire, qui s'appelle la ferme des 1000 vaches. Voilà, donc si on est en France, si les jeunes ne se battent pas pour qu'il n'y ait pas, si les jeunes se battent pour qu'il n'y ait pas de ferme de 1000 vaches, donc il n'y en aura pas partout. Donc les gens qui habiteront en périphérie, ils vont quand même pouvoir continuer à faire leur footing et à se balader et pas avoir « Ah ben tiens, là il est 11h, juste à 4h on ne peut plus sortir ». T'imagines le quotidien pour les gamins, pour tout le monde, c'est une voie sans issue, quoi.
C'est un projet qui date de longtemps, ça ?
La ferme des 1000 vaches, ouais, ça quand même, ça fait 8 ans qu'on en parle, facile. Ah ouais. Et il y a toujours, donc il y a un syndicat qui défend cette production en disant que on peut en faire plus. Ta vache, elle va donner peut-être 80 litres de lait par jour, alors qu'une vache, tu la laisses vivre normalement, elle va te produire 40 litres de lait. Donc on pousse tout au maximum. Quand on pousse tout au maximum, au bout d'un moment, c'est pas possible.
On apprend à contrôler.
Ouais, il arrive des catastrophes. Donc moi, mon message, c'est devenons décroissants. Arrêtons de... je sais pas les croissants qu'on a.
J'ai eu l'image dans la tête.
Mais faut revoir nos modes de consommation et arrêter de consommer comme des cinglés. Mais consommons de relations humaines.
Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Bartas, cette interview est désormais terminée.
Toi, il en balance le vieux de 50
ans. Pas mal, hein. On se retrouve sur les ondes plus tard. Passez une bonne journée, une bonne nuit. Ciao.
La quatrième dimension n'est qu'un autre chemin. Les libertaires sans condition, nous voulons concept de nation. L'échange est notre culture. Welcome, bienvenue chez le Progressive Idée.